Règlement de compte. Une émission proposée par le docteur Dominique Desmichel, médecin généraliste et psychanalyste, et Simon Martin. Au cours des précédentes émissions, nous avons essayé, je dis bien essayé car cette question a torturé l'esprit des plus grands penseurs depuis l'aube de l'humanité, nous avons essayé, disais-je, d'éclairer les ressorts du mal. Notre figure archétypale, nous l'avons puisée dans un conte populaire, celui du petit poucet, et il s'agissait bien sûr de l'ogre. Mais le personnage principal de ce conte, le petit poucet lui-même, quelle stratégie met-il en œuvre pour vaincre l'ogre et ce mal qu'il incarne ? Eh bien, cela, nous allons le voir avec le docteur Dominique Desmichel. Dominique, bonjour.
Bonjour Simon.
Alors, une des marques du petit poucet qui saute aux yeux, évidemment, on pourrait dire, c'est un personnage courageux. C'est une histoire de courage, comme la plupart des héros de contes d'ailleurs.
Oui, tout à fait. On peut se rappeler, les gens qui se rappellent un petit peu le conte vont se souvenir qu'il va écouter les conversations de ses parents un petit peu en cachette, il va se glisser sous l'escabeau de son père, il va sortir pour ramasser les cailloux, il va ensuite se priver de manger puisqu'il garde le pain et ne le mange pas pour laisser des petites traces. Puis ensuite, quand on est au cœur de la forêt, il défend ses frères et il leur dit on va faire quelque chose, il grimpe à un arbre, il voit une lumière, elle a cette petite lampe. Ensuite, il rentre dans la maison, il discute avec la femme de l'ogre, il arrive à tergiverser pour décaler le moment où il va se faire manger par l'ogre, il échange les couronnes, il se saisit des bottes. Et on se rappelle, dans le petit codicille qu'il y a à la fin, le petit ajout qu'il y a à ce conte, il va se faire le messager du roi alors qu'on est dans un royaume en guerre. Hein, donc ça fait quand même un petit peu beaucoup. Alors on peut essayer de réfléchir en se disant, qu'est-ce que c'est au fond qu'être courageux ? Dans une certaine mesure, on pourrait dire, être courageux, c'est faire un acte qui est le plus souvent exceptionnel. Je crois que le point particulier, c'est qu'il échappe à l'entendement de celui qui est courageux. Il y a quelque chose qui se passe. J'entendais il n'y a pas tellement longtemps l'histoire d'un jeune enfant qui avait sauté dans un bassin pour aller sortir un petit enfant tout petit qui était en train de se noyer. Bah, au fond, on l'interviewait après. Il n'a pas fait un acte courageux, point. Il a sauté, point. Et puis voilà.
Donc, là, on parle de l'héroïsme, là, presque.
Voilà. Alors, dans l'héroïsme, en effet, il y a quelque chose qui est plus vaste, c'est-à-dire, fondamentalement, est perçu par le héros, l'idée qu'il y a une rupture de sens. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui est porteur antérieurement de mort, et il va y avoir quelque chose qu'il faut transformer. Donc, dans cette situation, il va y avoir un moment de peur, d'angoisse, d'anxiété ou de grande terreur, et c'est la peur qui va cadrer le courage. Et au fond, c'est sa prise en compte et l'espèce d'absolue obligation qu'il y a pour le héros de dépasser cette peur qui va l'inciter au courage. Et je crois qu'on pourrait dire que le fait de faire un acte héroïque ou courageux nécessite d'avoir conscience de cette peur. Parce que si on n'en a pas conscience, alors c'est qu'on est ou téméraire ou complètement inconscient. Mais de toute façon, ça ne va pas. Ce n'est pas héroïque.
Dans la plupart des cas, dont celui que vous avez cité, vous l'avez bien dit, c'est quelque chose d'instinctif presque.
Oui.
Donc on ne réfléchit pas à savoir si c'est dangereux ou pas. Et c'est d'ailleurs ce qui fait tous les actes héroïques. Je me souviens du film de Clint Eastwood sur ces jeunes soldats américains qui arrêtent un terroriste dans le TGV belge de la Belgique vers Paris.
Thalys,
ils sont là, on le voit très bien dans le film, à un moment donné. Il se précipite vers le type qui a une kalachnikov pointée sur lui. Il ne se pose pas la question de savoir si je vais mourir ou pas.
Donc là, on est en effet dans l'acte de courage. Mais le héros, probablement, il sent qu'il a une mission. Il n'est pas simplement dans quelque chose qui est ponctuel. Il y a quelque chose d'une mission. Et on voit bien que le petit poucet, il pourrait avoir son premier acte, c'est-à-dire, ouais, je sauve ma peau. Et puis, donc je vais mettre des petits cailloux. Mais ensuite, il récidive. Donc, il a déjà dépassé sa première peur. Oui. Voilà sa première peur. Et puis ensuite, dans la forêt, il pourrait être terrorisé. À chacune de ces étapes, il pourrait être terrorisé. Et au fond, on peut penser que ce qui l'habite, c'est quelque chose qui est extrêmement, extrêmement profond. Je l'ai fait parce que ça s'est imposé à moi. C'est venu, j'ai agi, c'est tout. Et même s'il est évident que ça ne vient pas tout seul, même s'il est évident qu'on est probablement éduqué au courage par un peu l'exemplarité au fond de ses éducateurs, c'est quelque chose qui requiert un engagement extrêmement global et une perspective. Donc l'acte peut être tout à fait ponctuel. L'idée, en tout cas, du conte, c'est qu'il va y avoir une vraie continuité et quelque chose qui est là pour donner du sens et réparer une histoire blessée.
Alors, comment devient-on courageux ? Comment devient-on prêt à risquer sa vie, justement ?
J'aurais tendance à penser que c'est d'abord et avant tout une position éthique, c'est-à-dire une souffrance qui donne la perception que ce qui est en train de se vivre n'a pas de sens, est porteur de mort, et donc qu'on se sent investi de la possibilité, d'une possibilité consciente, qui n'est pas ni téméraire ni inconsciente, de changer le cours des choses. Et évidemment, je vous rappelle bien que le petit poussé ici est une figure symbolique, est une figure symbolique, c'est-à-dire à l'intérieur de nous-mêmes, potentiellement, il y a ce petit poussé qui nous attend et qui pourrait agir dans certaines circonstances.
Alors, vous avez parlé d'éthique, très bien, mais je vous rétorquerai que le petit poussé est-il entièrement positif ? Et puis, les motivations pour un acte héroïque sont souvent très nombreuses et parfois contradictoires. Ça peut être l'orgueil, la gloire, le sens du devoir, voire le lavage de cerveau. Et bien sûr, ça peut également être l'altruisme, l'oubli de soi. Et alors, le petit poussé, parce qu'on voit quand même, il ment à ses parents, il va sacrifier, il va sacrifier les filles de l'ogre. Alors, il va pas hésiter à les tuer. Il ne dit pas tout. Il préfère agir un petit peu dans l'ombre.
Alors, on pourrait s'arrêter parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles vous dites. Alors, je vais reprendre. Par exemple, pour le mensonge. Moi, je suis pas d'accord en disant qu'il ment, parce que il y a deux types de mensonges. Il y a un mensonge qui n'est pas juste, qui est porteur de non-vie. Et pourquoi il est porteur de non-vie ? Parce que le seul avantage du mensonge, c'est de tirer un profit qui n'est pas juste. Mais il y a des mensonges qui sont au fond qui relèvent du fait qu'on garde ça pour soi et qu'on sent la nécessité de ne pas le dire, ou on ne va pas donner un élément de véracité à l'autre, par exemple, parce qu'on pense que c'est mieux pour lui. Pour moi, ce n'est pas du tout un mensonge dans le sens négatif ou dans le sens judéo-chrétien et moralisateur du terme. À ce moment-là, on dit « je ne dis pas toute la vérité, mais je n'en tire aucun profit pour moi ». Ce qui va présider à la justesse de ce mensonge, c'est la vérité relationnelle. Je rappelle que pour moi, il n'y a de vérité que dans la relation. J'essaye d'être dans une vérité relationnelle. La vérité, ça n'a rien à voir avec la véracité. La véracité, c'est de dire les faits. Et de temps en temps, il y a une vérité qui est plus importante qu'une véracité et qui permet de s'autoriser à ne pas dire les faits.
Et tout ça pose la question de l'éthique. Alors, l'éthique, oui. elle est pas forcément aussi claire qu'elle n'y paraît à chaque fois.
Non, elle n'est pas claire. Vous disiez d'ailleurs, peut-être on peut faire un acte héroïque, je ne sais plus ce que vous disiez, par lavage de cerveau.
Par exemple, par sens du devoir ou par orgueil.
Par sens du devoir, voilà. Voilà. Alors, par orgueil, oui, je pense qu'on peut, dire qu'on a fait telle chose et que l'acte va être considéré par les autres comme héroïque. Il me semble que, du point de vue d'une analyse plus profonde de l'acte, s'il a été fait par orgueil pur, alors, à mon avis, il perd ce qualificatif d'acte héroïque. Vous voyez, simplement, on l'a fait pour un profit. Alors, on a pris quelques risques pour un profit. De temps en temps, on a perdu. De temps en temps, on a gagné. Mais vous voyez, il y a la nécessité pour qualifier un geste d'authentiquement courageux et pour qualifier quelqu'un d'être un véritable héros, c'est que globalement, en tout cas, la perspective soit une perspective de vie, c'est-à-dire une perspective qui donne du sens à l'histoire, il me semble.
Alors, comment cette vraie conscience éthique, alors comment peut-on la définir ?
La question de l'éthique, c'est toujours,
c'est
pour
bien
moi...
Il y a un cadre marqué quelque part. Sinon, ça reste fluctuant.
Il y a un impératif. Il y a un impératif. Pour moi, l'éthique, c'est la gestion d'impératifs contradictoires. Lorsqu'on sait bien où est le bien et lorsqu'on sait bien où est le mal, il n'y a pas de question.
Mais voilà. Ça, c'est déjà compliqué dans de nombreux cas.
C'est déjà compliqué pour définir le bien, oui. Pour définir le mal, pas trop. Quand on réfléchit, qu'on discute avec les gens, dire « ça, c'est mal », assez rapidement, autour d'une table, on arrive à une sorte de consensus.
Oui, donc, mais si je prends les... Ouais. L'exemple basique des 10 commandements, tu ne tueras point, on peut se dire tuer c'est mal. Et dans certains cas, tuer peut être positif.
Non, 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 non.
Ceux qui ont essayé de mettre une bombe sous le siège d'Hitler, c'est difficile de dire qu'ils avaient totalement tort.
Non, l'enjeu ici, c'est de se dire qu'on est vraiment dans une question éthique et qu'à ce moment-là, on est dans une gestion d'impératif contradictoire. Je reprends le point de départ de notre échange, à savoir enfin, de votre question. Dans les 10 commandements, on s'aperçoit que d'abord, pour moi, c'est un texte qui est un texte moral. Ce n'est pas un texte qui est éthique. Dans les 10 commandements, je ne sais plus par cœur, mais dans les 10, je dirais il y en a 7, si ce n'est 8, qui sont des interdits. Il n'y en a que 1 ou 2, je crois que c'est les deux premiers, tu aimeras ton Dieu comme toi-même ou tu aimeras ton prochain, voilà. Donc quelque chose qui est ouvert. Les autres, ce sont des interdits. Ça, ce sont des lois morales. Alors que le questionnement éthique, pour moi, c'est gérer des impératifs contradictoires. Je reprends votre exemple de mettre une bombe sous le siège de Hitler. Là, on est dans vraiment une question éthique, puisque d'un côté, on va tuer quelqu'un, et de l'autre, on va s'interdire de le faire sous prétexte qu'on ne va pas tuer quelqu'un. Là, on est dans une vraie question éthique, c'est-à-dire on gère deux impératifs, c'est-à-dire je dois tuer cet homme parce qu'il a tué des millions de gens et il va continuer à le faire, ou je ne tue pas cet homme parce que c'est interdit. Et on gère cet impératif contradictoire, et là on est dans une tension éthique, et ensuite on réfléchit. C'est la même chose que lorsque le débarquement est décidé, ceux qui décident d'envoyer les hommes sur les plages de Normandie, ils savent qu'il va y avoir des milliers de morts. Hein. Mais en même temps, ils disent qu'il y a quelque chose qui est supérieur à ça. Donc on pourrait dire, on peut imaginer que ceux qui ont décidé de mettre un siège dans la pièce, une bombe dans la pièce où était réuni Hitler, ils l'ont fait parce que dans cette tension intérieure, ils se sont dit, il y a une loi, en l'occurrence la loi de sauver un grand nombre, qui est plus importante que la loi qui m'interdit de tuer une personne. On appelle ça, dans la réflexion éthique, une éthique utilitariste.
Je comprends bien, mais les réponses à ces grandes questions ne oui. sont pas toujours totalement tranchées. Hiroshima, c'est compliqué de dire c'était utile pour terminer la guerre, ou l'amiral Darlan, quand il a été assassiné, c'est pareil, c'est toujours... Y a-t-il une réponse définitive à ces questions-là? Le petit poussé avait-il le droit de sacrifier les filles de l'ogre?
Alors, à partir du moment où il y a une tension éthique, ça veut dire que le problème n'est pas simple. Donc ce n'est jamais simple. Quand c'est simple, ça veut dire qu'on sait où est le mal et qu'il faut s'interdire de faire le mal. Hein. Pour l'exemple du petit poussé, on est dans une dimension symbolique. C'est-à-dire, les filles de l'ogre, ce sont les enfants de l'ogre. Donc si ce sont les enfants de l'ogre, ce sont les produits de l'ogre. Donc ils appartiennent, on pourrait dire, à un contenu qui est du domaine du mal. Voilà. Donc il ne s'agit pas de tuer des enfants dans le conte. Il s'agit de tuer les enfants du mal, on pourrait dire. Hein, voilà. Et on a vu en écoutant ce texte-là combien voilà, ces filles appartenaient à un royaume dans lequel il n'y avait pas de sens et où elles étaient prêtes à dévorer. Donc le conte nous dit bien que de toute façon, il va y avoir une répétition. Voilà. Donc là, il s'agit de stopper la répétition. Et d'ailleurs, on ne dit pas, je vous le rappelle, que le petit poussé tue les filles de l'ogre. Il échange, c'est-à-dire il rétablit l'identité, c'est-à-dire il dit « je ne veux pas que mes frères soient l'objet de l'ogre ». Donc il change. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'ogre qui tue ses filles, il faut quand même bien dire ça. Si l'ogre avait eu les yeux ouverts et un petit peu plus de conscience, il serait monté dans la chambre et au lieu de violer ses filles, il serait dit « les garçons ne sont plus là et je respecte mes filles ». Donc on voit bien qu'il était dans une position perverse vis-à-vis des enfants. Je rappelle que l'ogre, c'est plutôt le pédophile, et donc il a violé ses filles au lieu de violer ses garçons. Mais en gros, c'est la même chose. Hein, il n'y a d'ailleurs pas de préférence sexuelle chez la majorité des pédophiles.
Alors, le petit poussé, donc, grâce à ses stratégies d'éthique, nous l'avons vu, de courage, parvient à vaincre le mal. Le mal disparaît-il pour autant?
Non, alors... Non, je pense que le mal ne disparaît pas, puisqu'il est la condition du bien. Il n'y a pas de possibilité d'exercer le bien s'il n'y a pas la possibilité d'exercer le mal. Hein. Je ne sais plus si c'est à l'occasion de ce conte-là ou d'un autre. On avait reparlé de la question du jardin d'Éden, dans lequel il y a cet arbre de la connaissance. L'arbre de la connaissance, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tant qu'on n'a pas goûté le fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire tant qu'on est un enfant, eh ben, on ne fait pas le bien, on ne fait pas le mal. On fait spontanément ce que nos instincts nous commandent de faire. Hein. Donc le passage, la sortie du jardin d'Éden, c'est le fait de grandir, c'est de devenir un adulte, et donc de connaître le bien et le mal. Donc non, j'aurais tendance à penser qu'à partir du moment où on a une liberté de choisir, il faut qu'on puisse choisir ou le bien et le mal. Donc le mal, l'existence du mal est la condition pour pouvoir exercer le bien. Et la condition pour pouvoir exercer le bien, c'est que le mal puisse exister. Sinon, on n'est pas dans une situation de liberté. Hein. On serait dans ce que vous avez appelé dans d'autres, tout à l'heure, les lavages de cerveau. C'est-à-dire, on est juste objet de ceux qui nous ont déterminés, hein, ceux qui nous ont, par exemple, lavé le cerveau.
Alors, dans ces questions extrêmement complexes, nous l'avons vu, des questions ouvertes sur, sur l'éthique ou même sur la morale, comment apprend-on justement à avoir une conscience éthique? Comment devient-on vertueux et peut-on le devenir? Ou bien on a l'impression qu'avec le petit poussé, c'est quelque chose de naturel?
Je crois beaucoup dans l'éducation que l'invitation à une réflexion sur le déploiement de ces actes est très très important. D'ailleurs, il me semble que moi personnellement, comme psychanalyste, en écoutant les histoires des gens, je ne les accompagne pas dans le fait qu'il s'agirait pour eux de dire que leur maman était une sorcière, que leur père était un ogre, que leurs frères et sœurs étaient des dangereux ennemis et que eux sont uniquement des victimes, mais arriver à comprendre ce qui s'est passé pour déployer une scène dans laquelle eux, ils ont souffert, authentiquement souffert, et comprendre. Donc je pense que, en tout cas pour moi, puisque vous rapprochez ça de la question de l'éthique, pour moi, l'objectif d'un travail d'analyse sur soi, c'est de générer à l'intérieur de soi une vraie position éthique. C'est-à-dire être à même, on n'a jamais fini ce travail-là, hein, même quand on ne va plus voir le psychanalyste, hein, mais c'est-à-dire d'être à même de pouvoir, en fonction de l'élargissement de son champ de conscience qu'on a déployé au cours de ce travail avec soi-même, être à même de déterminer ce qui nous paraît juste. Moi, je préfère dire ce qui est juste dans le sens de justesse et justice, hein, les deux sens du mot juste, plutôt de se dire qui est bien. Parce que le bien, c'est un côté un petit peu moralisateur qui est complexe et qui n'est jamais aussi binaire comme vous l'avez dit. C'est pour ça que moi, je réserve le terme de morale à quelque chose qui serait essentiellement fait autour d'interdits, comme l'a développé les 10 commandements, mais aussi Kant, beaucoup plus tard, bien évidemment, à la question de l'éthique, c'est-à-dire, voilà, il se passe là, en ce moment, j'ai envie de m'énerver contre mon conjoint ou mes enfants. J'essaye de réfléchir à ce qui m'agit à l'intérieur de moi pour trouver une bonne position éthique. Donc pour ça, je reviens sur ma propre histoire, je reviens sur l'enfant que j'étais, je reviens sur le fils ou la fille que j'ai été par rapport à mes parents. Et dans cette élaboration, on gagne de la liberté et on gagne cette capacité à pouvoir occuper une position éthique. C'est jamais fini. Hein.
Alors je comprends bien qu'en analyse, ce soit les mécanismes qui sont mis en œuvre, mais alors dans la vie de tous les jours, pour celui qui ne suit pas d'analyse, est-ce que justement ce discernement est facilement assimilable ou bien on a parfois l'impression que, au contraire, la société tente de nous contenter dans notre aveuglement pour pouvoir peut-être mieux, malheureusement, nous manipuler?
Oui, probablement. C'est très complexe. Si il s'agirait de dire c'est quoi les fondements de la morale. Alors, je n'ai pas les compétences pour répondre là-dessus, mais il me semble qu'une idée simple, c'est de se dire que lorsqu'on est avec soi-même et avec son prochain, ancré sur ce que j'appelle moi les deux piliers de la morale, à savoir le respect de l'autre et la bienveillance vis-à-vis de l'autre, la vie est plus facile. Voilà, hein, la vie est plus facile. Et tout le monde, dans l'existence, préfère avoir une vie plus facile. Donc je crois que dans l'expérience, on sait très bien que si on respecte les grandes lois de la morale et si à l'intérieur de soi-même, on est capable d'effectuer ce discernement pour trouver une position juste, en termes de justice et en termes de justesse par rapport à soi et par rapport à l'autre, en gros, la vie est plus facile. Voilà, il y a plus de bonheur potentiel. Il y a plus de bonheur parce qu'il y a plus de vie, parce qu'il y a plus de sens. Donc je crois que la vie quotidienne nous apprend ce type de choses. On apprend d'ailleurs le plus souvent dans les épreuves, on apprend quand on se fait marcher sur le pied, on apprend quand on se prend des claques dans la figure, on apprend quand on rentre dans un lampadaire, on apprend quand il y a des choses qui sont difficiles. Et là, si on trouve, ou en soi-même, ou avec quelqu'un d'autre, éventuellement chez le psy ou chez ailleurs, hein, cette possibilité de reprendre l'événement et de le comprendre, alors, en effet, on développe la possibilité d'avoir plus de liberté pour cette position-là. Et, en effet, ça permet, alors ça c'est un autre point, mais je reviens sur votre question de presque la manipulation. Ce qui me semble, c'est que on a plus de chances d'être heureux, d'une part, ce qui est quand même peut-être l'objectif essentiel de la vie, à condition que ça ne soit pas égoïste, mais que ça soit aussi partagé. Et deuxièmement, vraiment on gagne de la liberté dans nos choix. Et surtout, dernier point, on est plus en relation avec son désir. Or, par exemple, pour reprendre votre dernière phrase, il me semble qu'une des grandes difficultés de notre société actuelle, c'est que cette société de consommation sature tous les espaces de notre désir. C'est-à-dire, beaucoup de gens confondent le plaisir et le bonheur et confondent la satisfaction de nos besoins avec la satisfaction de nos désirs. Hein. Comme notre société de consommation nous dit « il suffit que tu achètes, que tu consommes et que tu seras heureux », alors on se fait avoir. Et qui n'échappe pas un petit peu à cette... Enfin, il n'y a pas beaucoup de gens qui échappent un petit peu à cette dimension-là. Alors que si on travaille du côté de l'être, les gens découvrent en effet qu'il y a plus de plaisir dans l'être que dans l'avoir. C'est un fait, ce n'est pas une loi morale que je dis, c'est un fait, à mon avis, psychologique.
Alors, justement, ce travail sur soi, il semble que le petit poussé l'a accompli, peut-être naturellement, avec justement cette acquisition d'un silence intérieur, un silence intérieur qui lui permet eh bien, de souffrir aux autres. On l'avait vu hein, tout au début du conte, il ne parle pas, il laisse les autres s'installer dans la cacophonie sans y participer, il se cache pour écouter, il est à l'écoute, même la nuit.
Oui. Le travail chez le psychanalyste est un travail essentiellement intérieur. Hein. Le psychanalyste sert de tiers, il sert d'oreille, il sert de positions différentes, différenciées, décalées, comme ça. Il n'est pas là pour dire le bien, il n'est pas là pour dire le mal, il est là pour aider à la réflexion. Donc ce travail est un travail intérieur. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on prend quelques gamelles dans la vie, on gagne de la liberté si on fait ce travail intérieur. Donc je crois qu'en effet, le courage, celui du petit poussé en l'occurrence, c'est vraiment une force intérieure pour tenir sa place, pour tenir sa position, pour tenir son humanité, pour tenir son désir. Et je crois que dans cette dimension-là, on retrouve ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire le petit poussé, il est agi par quelque chose qui fait qu'il sent que ça va faire de la vie, puisqu'il va pouvoir se libérer de l'oppression de l'ogre au cœur de la nuit, c'est-à-dire au fond des insuffisances et des blessures de ses propres parents, en l'occurrence le bûcheron et sa femme.
Alors pour écouter, il faut faire silence en soi, docteur Dominique Desmichel, dans votre expérience de psychanalyste, comment parvenez-vous à faire le silence en vous afin de vous mettre à l'écoute de votre patient ?
Je ne sais pas si c'est très simple de dire, de répondre. D'abord, une expérience extrêmement basique qui consiste à constater que quand on veut aider quelqu'un qui est en difficulté, le plus simple, en même temps c'est un peu compliqué, je vais redire après, mais le plus simple et le plus efficace, c'est juste de l'écouter sans rien dire. Juste de l'écouter. Et ça rejoint d'ailleurs ce que vous disiez tout à l'heure du côté de ce travail d'élaboration et de discernement, c'est-à-dire l'autre dans cette parole. Et dans le fait qu'il vive l'expérience d'être écouté, il va pouvoir élaborer. Voilà. Et souvent, celui qui l'écoute peut lui dire « Ah bon, et t'en penses quoi ? Et qu'est-ce que t'en dis ? Et ça vient d'où ? Et tu crois que ?» C'est-à-dire renouveler avec des questions pour aider l'autre. Donc, bien évidemment, c'est à partir de ce silence à l'intérieur de soi-même où on se met dans une sorte de position, On s'assoit, on est face à face. Voilà, le psychanalyste d'abord, il se tait. D'ailleurs, il passe beaucoup, beaucoup de temps à se taire et à écouter. Mais évidemment, c'est une présence. C'est-à-dire, c'est pas du tout une distance. C'est une présence extrêmement, extrêmement active que l'autre perçoit puisque on ne rate rien du discours. Moi, je ne suis pas du tout partisan de ce discours flottant où on laisserait... Évidemment, on laisse venir ce qui vient à l'intérieur de soi-même en termes d'image, en termes de sensations, en termes d'émotions, en termes de réflexion aussi. De temps en temps, les réflexions, ça aide quand même aussi à la pensée. Mais ce n'est pas ça qui compte. C'est d'abord d'être en présence vis-à-vis de l'autre pour que la relation permette à l'autre d'apprendre à être en relation avec lui-même, c'est-à-dire d'ouvrir cet espace intérieur au sein duquel il va pouvoir élaborer, et en particulier, pour rejoindre l'histoire du petit poussé, trouver du courage pour avancer, parce qu'en général, quand les gens viennent nous voir, c'est plutôt que ça ne va pas.
Docteur Dominique Desmichel, nous arrivons bientôt au terme de notre émission et aussi au terme de ce cycle sur le petit poussé et le mal. J'aimerais, pour conclure, si vous le voulez bien... Eh bien, qu'on arrive peut-être à cette question qui me semble essentielle dans le mal, c'est le mal qui s'insinue dans, fait, finalement dans nos rapports aux autres, et c'est peut-être là qu'il est le plus violent, dans nos rapports aux autres, et surtout quand il s'agit peut-être de nos liens familiaux. Alors, justement, comment s'en sortir? Comment le petit poussé quelle stratégie met-il en place? Sachant que le conte se termine aussi par une histoire de rapport avec les autres, puisqu'il se fait le messager, mais cette fois-ci non pas du mal, mais de la paix et de l'amour.
Et en tout cas, dans le petit ajout, hein, il va faire du lien. Il fait du lien entre le roi et ses soldats. Il fait du lien entre les soldats et leur épouse, hein, voilà, parce que les soldats sont à la guerre et les épouses à la maison. Alors, en tout cas, on peut le supposer.
Dans les liens familiaux, ça doit être extrêmement difficile à dénouer, parce que on imagine bien tout l'affect qu'il y a derrière.
Oui, je pense que c'est vraiment très important que vous souligniez quelque chose au niveau de l'affect, parce que l'affect, c'est ce qui porte la valeur, hein, voilà, la pensée, ça donne pas de valeur, tandis que l'affect, c'est ce qui porte de la valeur, mais ça le porte positivement et négativement. L'amour et la haine, c'est le même sentiment. Je rappelle toujours que le contraire de l'amour, c'est pas la haine. Le contraire de l'amour ou de la haine, c'est l'indifférence. Donc, à l'intérieur des familles, il y a une grande difficulté à discuter ensemble parce que les affects vont être là en premier. Donc, pour pouvoir avancer, il faut se dire, on baisse un tout petit peu le volume et puis on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Voilà. Donc, je pense que là, ça nécessite... Moi, dans mon travail, je le vois avec les couples que je peux accompagner. Je le vois avec les parents qui viennent me parler de leurs difficultés avec leurs enfants. Il n'y a pas de recette miraculeuse. Juste, on prend le temps de réfléchir. Voilà, j'ai fait encore ça, vous voyez, par exemple, hier après-midi avec une maman vis-à-vis de sa fille adolescente qui me disait, bon, on s'est encore crêpé le chignon toutes les deux avec ma fille. On a repris l'événement. En l'occurrence, elle avait emmené sa fille à la piscine, puis il y avait eu un événement qui avait mobilisé tous les gens de la piscine parce qu'elle avait en gros disparu. On se demandait si elle n'était pas au fond du bassin ou partie, etc. Et en reprenant la situation de point de départ, ce qui avait motivé ce voyage, etc., eh bien, elle a pu comprendre ce qu'elle attendait, parce qu'elle attendait en fait quelque chose de ce temps à la piscine avec sa fille, que sa fille probablement ou n'avait pas compris cette attente ou attendait autre chose, et que chacune avait des comptes à régler et avec son parent ou avec son enfant, et aussi avec sa propre histoire. Donc, tenir les affects, c'est très très important. On voit ça par exemple dans le fait que quand les parents crient sur leurs enfants... Il n'y a que la musique, c'est-à-dire l'affect, qui est entendu, et le texte n'est pas entendu. Donc d'abord, on dit, bon alors, on essaye de baisser un tout petit peu la musique, on s'assoit, on essaye de se retrouver ce temps silencieux à l'intérieur de soi qui accueille l'autre, et on essaye de comprendre ce qui s'est passé. Je crois que c'est la leçon, au fond, du petit poussé, qui vient nous dire, il y avait une situation initiale qui était dramatique, à savoir des parents abandonnants, au fond. Je vais voir dans l'histoire... J'essaye de me débrouiller avec les ombres de l'histoire, en l'occurrence les espèces d'ogres et de sorcières qui traînaient dans la famille du bûcheron et de sa femme. Et à partir du moment où je peux dépasser ces ombres, hein, je vous rappelle que le petit poussé, il ne tue pas l'ogre, il ne tue pas la femme de l'ogre. Voilà, simplement, il rétablit chacun dans sa position et il refait du lien à l'intérieur du royaume entre les parents et les enfants, on va dire pour ça, ou entre les deux parents, puisqu'il fait le lien entre les soldats et leurs femmes.
Docteur Dominique de Michel, un grand merci et je vous donne rendez-vous et bien très bientôt pour une prochaine émission.
Merci à vous, Simon. Au revoir.